La première question, enfin première question, je vous laisse vous présenter chacun votre tour.
D'accord. Ok, on commence. Donc Fanny Maire, je suis chef de projet à l'agence d'urbanisme de l'agglomération de Tours sur le PLU de La Riche.
Et donc moi, Alain Huet, je suis architecte urbaniste et j'interviens sur l'ensemble des PLU en tant qu'archi.
La première question, très ouverte, est-ce que le PLU patrimonial existe ?
Bon, je commence.
Vas-y.
Est-ce que le PLU patrimonial existe ? J'ai envie de répondre, il peut exister. Tout dépend finalement quel accent on met, quelle importance on donne à la dimension du patrimoine dans le PLU. En effet, si la composante patrimoniale est prise en compte et si dès le début on a un diagnostic hiérarchisé avec un croisement des enjeux urbains, un projet qui est politique, les PLU aujourd'hui peuvent être patrimoniaux.
Moi je rajouterais simplement que le patrimoine c'est une dimension du PLU. Hein, moi je ne parlerai pas de PLU patrimonial parce qu'en termes de protection du patrimoine, de sauvegarde, de valorisation du patrimoine, il y a d'autres outils. Il y a la VAP, par exemple, mais le PLU, en tant que tel, aborde tellement de dimensions que le patrimoine, c'en est qu'une. Une dimension de la réalité du territoire sur lequel on intervient.
Alors justement, s'il y a d'autres outils, est-ce qu'on peut considérer que le PLU a aussi vocation à s'intéresser au patrimoine, si d'autres outils peuvent le faire ?
Oui, parce qu'en fait, il traite des questions que les autres outils ne traitent pas forcément, ou alors différemment. Alors, la VAP, c'est un peu particulier. Je pense que c'est sur des périmètres où il y a un enjeu très fort. Et Alain, tu connais peut-être mieux l'objet des AVAP. Mais par exemple, je pense à un autre outil qui sont les sites classés ou les monuments inscrits. Voilà, on n'est pas à la même échelle. Donc on est à l'échelle du bâti, on est à l'échelle, bon, même s'il y a une prise en compte via un périmètre de l'environnement autour, le PLU est vraiment là aussi pour traiter des notions d'axe, etc., d'autres échelles, donc oui.
Mais le PLU effectivement doit prendre en compte cette dimension-là, même s'il y a d'autres outils, parce que le PLU, je dirais à la fin du PLU, il y a un règlement. Hein, on va mettre en règle le projet des élus. Dans le projet des élus, on va leur poser, ils vont répondre à la question qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine-là ? Donc on va, je dirais, imposer un règlement sur ce qu'on appelle le patrimoine du territoire. Donc forcément, le PLU doit aborder cette question de patrimoine, quoi.
D'autant plus que finalement, le PLU traite aussi beaucoup ce qui n'est pas protégé. Voilà, donc finalement, ce qui est d'ores et déjà protégé via les monuments inscrits, via les monuments classés ou d'autres sites, le PLU va s'intéresser finalement à d'autres espaces. On peut appeler ça le petit patrimoine, ou en tout cas, après, on peut aussi définir ce que c'est que le patrimoine, mais si on regarde le patrimoine dans une notion très, très large, d'ailleurs, c'est pour ça que finalement, le PLU patrimoine, il n'a pas vraiment de sens, parce qu'on peut dire que d'une certaine manière, tout est patrimoine, donc PLU patrimoine. En tout cas, le PLU, il est là aussi pour s'intéresser à du patrimoine qui n'est pas forcément considéré comme exceptionnel, mais qui, à l'échelle de la commune ou à l'échelle d'un quartier, prend une force. Donc, en effet, il y a un jeu d'échelle qui fait que le PLU, qui aujourd'hui a une dimension locale, en tout cas communale, mais même dans sa dimension intercommunale, vient là compléter finalement d'autres protections.
Donc, quelque part, le PLU dit patrimonial se définirait ou par une question d'échelle ou par une question de hiérarchisation du patrimoine ?
Oui. Alors, en effet, c'est là où l'analyse patrimoniale est indispensable dans un travail patrimonial. C'est ce qui s'est fait, en l'occurrence, à La Riche, par exemple, le processus qu'on est en train de mener. C'est-à-dire qu'il y a eu un diagnostic patrimonial avec un focus uniquement patrimoine qui a analysé et hiérarchisé le patrimoine à La Riche, mais du coup d'une manière très large, c'est-à-dire un patrimoine sous toutes ses formes et bien entendu pas seulement le patrimoine protégé. Et cette étude s'appuyait sur 4 indicateurs. Donc ça a été une approche très scientifique. Et en effet, c'est un peu exceptionnel qu'on ait eu ce travail-là à la Riche. Dans l'idéal, il faudrait qu'une méthode de ce type puisse être appliquée dans tous les PLU. Après, c'est une question de moyens et d'argent et de moyens humains. En tout cas, là, il y a eu 4 indicateurs qui ont été posés. Donc la rareté, l'exceptionnalité, l'intégrité. Rareté, exceptionnalité, intégrité et le contexte. Son contexte, ouais, contextualité, voilà. Donc 4 indicateurs à partir de lesquels ils ont hiérarchisé en 4 niveaux le très élevé, patrimoine très élevé, le patrimoine élevé et puis ensuite 2 niveaux en dessous. Donc ce qui nous a permis, nous, d'avoir une hiérarchisation, cette carte ensuite qui a été élaborée. Déjà, il faut préciser que c'est un travail qui a été sur lequel on a un peu poussé pour que les services du patrimoine produisent une carte hiérarchisée. C'est pas non plus dans leurs habitudes et dans leurs habitudes de travail. Et donc cette carte hiérarchisée, ensuite, elle est croisée avec des enjeux urbains. Et là, ensuite, c'est le projet politique qui va justement définir qu'est-ce qu'on protège, qu'est-ce qu'on protège pas, et sous quelle forme, qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut conserver uniquement les notions de gabarit et de forme, ou est-ce qu'on veut protéger le bâti en tant que tel. Voilà. Après, une fois que le projet politique est défini, la stratégie patrimoniale, les différents outils peuvent être employés en fonction de l'objectif. Quoi.
Alors, si on considère que cette étude montre qu'il y a du patrimoine d'intérêt très élevé, est-ce que quelque part le PLU est le bon outil pour protéger ce patrimoine d'intérêt certes local mais très élevé, ou est-ce qu'une AVAP n'aurait pas été un outil tout à fait envisageable ?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça nécessite des études approfondies. Enfin, à une échelle de l'îlot, de la rue, du parcellaire. Donc c'est sûr que ça peut nécessiter du temps et une expertise complémentaire. Après, est-ce que le règlement d'urbanisme du PLU est-il suffisant, ou est-ce que l'AVAP aurait une valeur ajoutée ? Ça, j'ai pas la réponse aujourd'hui, ne connaissant pas suffisamment l'AVAP. Et on n'en est pas encore au stade du PLU, on n'a pas encore de recul pour savoir si nos outils sont suffisants dans les objectifs mis en œuvre. Toi, je ne sais pas si tu connais plus la VAP que ça.
Non, mais évidemment, idéalement, on pourrait souhaiter qu'à l'intérieur de tous les PLU ou sur tous les territoires construits, on ait une AVAP. On met une AVAP en place parce que c'est un outil relativement lourd, relativement complexe, qui coûte cher. On les met lorsqu'on a des ensembles patrimoniaux évidents, comme le centre de Tours. Nous, notre travail de la Riche, on a essayé effectivement de décrypter ce qu'on appelle le patrimoine ordinaire, ce qui révèle l'histoire de la Riche. Et alors, une AVAP, ça prend bâtiment par bâtiment, c'est un peu ce qu'on a dans les secteurs sauvegardés, quoi, hein, bâtiment par bâtiment, et on décrit un certain nombre, on décrit précisément le bâtiment en tant que tel, et on lui donne spécifiquement des prescriptions de réhabilitation, d'extension, de développement, etc. Bâtiment par bâtiment. Il n'était pas question de faire ça pour la Riche.
L'enjeu ne le justifiait pas, oui.
L'enjeu ne le justifiait pas, quoique ce patrimoine à la Riche, il n'est pas exceptionnel, il est né de l'histoire maraîchère de la Riche, qui a surtout, de fait, je dirais, de son histoire parcellaire, du tracé parcellaire, défini une forme urbaine très spécifique, d'architecture quotidienne, d'architecture qui n'est pas exceptionnelle, mais qui, dans sa forme, produit un espace public relativement exceptionnel, par le rythme, par la composition, par les hauteurs, par l'implantation les orientations des bâtiments, etc.
Alors, puisque le...
Pardon. Oui, pour faire écho à ce qu'Alain Huette dit, et c'est là peut-être où il y a une des limites, et je ne sais même pas si la VAP aujourd'hui peut protéger ça, c'est une des problématiques sur lesquelles tu as beaucoup assisté Alain, c'est sur le parcellaire. Voilà. Donc, est-ce que... je ne sais pas si... Comment, en fait, finalement, sachant que le parcellaire, c'est un peu le socle et des traces de l'histoire, en fait, c'est ça qui exprime Et puis après, qui explique tout le gabarit qu'il y a derrière. Comment éviter des remembrements parcellaires et comment conserver la lecture du parcellaire. Et ça, c'est une des questions. Oui. Et je ne suis même pas sûre que la VAP puisse protéger le parcellaire.
Alors, si on avait un outil pour effectivement définir, enfin pas définir, mais protéger la lecture, parce qu'un remembrement, de toute façon, vu les, je dirais, les conditions dans lesquelles aujourd'hui on vit et qui sont en décalage par rapport à l'époque de la production de ce patrimoine-là, il est nécessaire que ce patrimoine évolue. Ce que l'on veut, c'est qu'on puisse garder la lecture de cette histoire-là. Voilà, avec, je dirais, certainement beaucoup de difficultés, sans forcément éviter le remembrement nécessaire à une certaine densification, puisque à chaque fois qu'on parle de patrimoine, on est à l'intérieur de l'enveloppe urbaine, dont la nécessité d'accepter une certaine densification, transformation. Transformation d'autant plus importante à La Riche, c'est qu'on est en zone inondable. Donc comment éviter aujourd'hui d'habiter ou d'exposer les habitants. Ouais, d'accord. Ah, surtout celle-là, elle est bruyante.
Bon, on fait une petite pause.
Ouais, mais avec la technique, maintenant, vous avez... D'aller enlever tous les bruits de fond, non ? Vous y arrivez ?
Oui, on peut pas dissocier.
Il n'y a pas de...
Arrière-plan,
ouais. On peut corriger, nettoyer un peu, mais...
Ouais, c'est la ville, hein.
Ouais, il y a des limites, quand même.
C'est le bruit de la ville.
Ah ouais.
Pour ça, on est sur l'espace public.
Une voiture qui passe et... 205.
Oui.
Ah ouais, là, l'exemple est vraiment parce que c'est... C'est l'habitat des années 50, il a intégré la voiture.
Donc on en était au parcellaire.
Voilà, bon, je ne sais plus où on en était. On va peut-être...
Parcellaire. Sur la transformation... oui, enfin voilà, sur l'enjeu de la conservation du parcellaire.
Sur la nécessité de garder effectivement cette lecture-là, cette lecture riche qui produit un espace public spécifique, quoi, et une forme de bâti un peu originale, qui est celle du faubourg maraîcher de Tours, un peu comme à Saint-Pierre d'ailleurs. Hein. On a un peu cette symétrie entre La Riche et de composition entre La Riche et Saint-Pierre-des-Corps, faubourg maraîcher de la ville de Tours pendant très longtemps.
Alors si on parle un peu plus réglementaire, est-ce que réglementairement le PLU est un outil adapté pour la protection du ou des patrimoines? Et si oui, comment on fait avec un PLU pour protéger les patrimoines?
Alors, en effet, il existe déjà plusieurs outils actuellement dans les PLU qui permettent finalement de mettre en place des protections plus ou moins fortes. Du patrimoine. Nous avons les orientations d'aménagement et de programmation. Nous avons le règlement d'urbanisme. Et puis nous avons ce qu'on appelle le nouveau L151-19 qui est une trame qui permet d'empêcher même la démolition. Il me semble que nous avons aujourd'hui un panel d'outils qui est important, et on peut aller déjà très loin avec ces outils-là. On exploite rarement au maximum toute la potentialité des outils. Par exemple, des orientations d'aménagement et de programmation avec un angle, avec une dimension patrimoniale forte, on ne le fait pas si régulièrement que ça. On l'a fait sur les coteaux de Tours, par exemple. On peut se dire que là, il y a une dimension patrimoniale importante à travers une orientation d'aménagement et de programmation. Sur La Riche, par exemple, on expérimente un règlement. On aimerait bien aller loin dans le règlement en établissant finalement des secteurs assez petit, avec des notions d'implantation et d'alignement différents selon qu'on soit en rive sud ou en rive nord de la rue. On va voir justement jusqu'où on peut aller dans le règlement. On va aussi également essayer d'exploiter les possibilités qu'offre le dernier décret avec la notion de règle qualitative, justement pour voir si on peut sortir de la norme chiffrée qui est parfois... parfois gênante, puisque en fait, si on veut être proche du contexte, eh bien, parfois c'est plutôt la prise en compte du contexte et de hauteur environnante qu'une norme standard qui va apporter de la qualité. Donc on va voir là jusqu'où on peut aller avec cet outil-là. Mais oui, nous avons déjà pas mal d'outils possibles à utiliser. Et donc le dernier outil, ce sont une trame spécifique qui va empêcher la démolition. Puisqu'en fait, finalement, à savoir qu'est-ce que... Et ça doit être défini dans le projet politique. C'est qu'est-ce qu'on veut laisser évoluer, c'est-à-dire se transformer du point de vue de l'architecture, mais conserver des gabarits, des hauteurs qui seront finalement... Ça qu'on garde comme élément patrimonial, ce sont les gabarits. Ou à un moment donné, si c'est vraiment l'architecture qu'on veut conserver, dans ces cas-là, on va mettre un outil encore plus fort qui va être d'interdire la démolition. Voilà, et donc si on va jusqu'au bout de tout ça, à partir justement de la carte de hiérarchie, ce sera déjà un travail important. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, toi, sur les outils.
Non, moi je crois que le PLU, et je dirais que l'approche patrimoniale dans le cadre du PLU, oblige les élus à avoir une stratégie concernant ce patrimoine-là. Alors, pas une stratégie traditionnelle qui est de conserver lorsqu'on identifie un bâtiment remarquable, une pépite, hein, mais plutôt des ensembles architecturaux. Enfin, ce qui caractérise la Riche, c'est ça. Et la difficulté que l'on a un peu, que les élus vont avoir à établir une stratégie, c'est que cela concerne de grands quartiers dans lesquels on n'a pas forcément de pépites, mais c'est l'ensemble, je dirais, de l'ensemble de du quartier, sa formation, son imbriquement, sa richesse, ses hauteurs, etc., ses implantations, qui font que on va faire évoluer ce patrimoine-là, on va lui donner ses galons de modernité, on doit lui donner ses galons de modernité, mais tout en respectant la forme originale qui produit cette identité spécifique de ce territoire. Alors, on va y arriver, le PLU, avec des règles, quelques règles, et puis aussi des orientations d'aménagement qui peuvent permettre, effectivement, de, même si, à l'image de ce qu'est la Riche, c'est-à-dire un parcellaire étroit, est très très long. La tendance aujourd'hui, c'est que le promoteur achète une, deux, voire trois parcelles et défigure la forme de la parcelle qui elle-même va produire effectivement un bâtiment très différent qui va s'affranchir des contraintes de ce parcellaire laniéré. Donc l'orientation d'aménagement va faire en sorte qu'on va peut-être pas empêcher le remembrement, mais on va obliger à la lecture dans le partage des fonctions, par exemple, dans l'architecture, dans le rythme des façades, de retrouver, de conserver cette lecture, laniérée, cette lecture originale que l'on a du tissu de la Riche.
Oui, il y a un autre point final. Ce qu'on a essayé de faire aussi dans ce PLU, par exemple, qui est intéressant, c'est de voir le POS, qui justement on est en train de réviser, de passer de POS en plus. Le POS ne prévoyait finalement de protéger uniquement la partie du port, qui est la partie traditionnelle, qui est un peu évidente. Et puis, et finalement, le travail qu'on a essayé de faire, c'est de sortir de l'évidence et aussi de sortir d'essayer d'aller plus loin dans la lecture de l'histoire de la ville et en protégeant par exemple des voies qui conduisent, de donner de la force au château du Plessis. Alors il ne peut pas être anecdotique le château du Plessis, puisque c'est un monument exceptionnel, mais renforcer finalement sa présence dans la ville en protégeant aussi toute la rue du Plessis et les gabarits qui n'étaient pas du tout protégés, et avec la pression aujourd'hui que Villariche, la rue du Plessis aurait pu très aisément finalement se transformer et avoir des gabarits plus hauts. L'objectif a été là aussi de protéger toute la rue du Plessis qui conduit au château. Donc voilà, on est vraiment sur aussi une notion d'échelle. Oui. Voilà. Et d'offrir une lecture à travers aussi, alors une spécificité de la Riche, c'est par exemple c'est son trident, ces trois voies anciennes qui n'ont pas du tout été bousculées, à l'inverse de Saint-Pierre-des-Corps, qui a été complètement, suite au bombardement, une tramvière qui a été complète, qui n'est plus en l'état. Ça c'est quelque chose d'exceptionnel à la Riche, exceptionnel en tout cas dans l'agglomération, et qu'on a essayé, on s'est appuyé aussi à regarder ces voies, ces trois voies-là. Et puis il y a un autre point, mais peut-être qu'on en parlera plus tard, mais qui me semble important, c'est qu'il y a la règle, et puis après, il y a la portée de cette règle, et à mon avis, le plus gros du travail est aussi à faire après, c'est-à-dire au niveau de l'instruction.
Justement, quelle gestion des patrimoines par un PLU? Ça rejoint la question de la gestion quotidienne.
La gestion, à mon avis, elle commence dès l'élaboration du PLU, justement dans la manière dont on travaille déjà avec les services instructeurs, et notamment les services instructeurs. Bon, les élus, bien entendu, puisque il faut d'abord et avant tout que ce soit porté par les élus. Et comment après aussi les services instructeurs qui, eux, vont vraiment être dans le vif du sujet, quand ils vont avoir un projet de permis de construire, ils se disent là, c'est un endroit stratégique, on rencontre le pétitionnaire, on voit avec les élus, éventuellement avec l'ABF pour améliorer le projet, pour travailler les matériaux, etc. etc.
Non, moi je voulais revenir à quoi sert le PLU dans la gestion du patrimoine. Je crois que à la Riche, mais comme un peu partout, à la Riche, on a des pépites, enfin des grosses pépites évidentes. C'est le couvent des Minimes, c'est le château de Louis XI, et puis c'est le prieuré Saint-Côme. Voilà, alors quand on parle de patrimoine, on dit protection. Protection de l'un et des trois grosses pépites.
Évidentes, quoi.
Voilà. Le PLU de la Riche va s'attacher à retrouver les chemins de l'histoire, à fabriquer des chemins de l'histoire. Entre les rives du Cher et les rives de la Loire, on a ces trois pépites-là. Nous, on en a rajouté une quatrième, qui est ce dont on parlait tout à l'heure, cette structure maraîchère encore très visible dans ses traces et dans son architecture. Donc, retrouver et refabriquer ces chemins de l'histoire, ça va être simplement peut-être de tracer un fil rouge entre les rives du Cher et les rives de la Loire, en passant par l'ensemble de ces ensembles patrimoniaux, de façon à ce que le visiteur, le citoyen, ait une lecture, je dirais, d'ensemble et cohérente de ce territoire-là. Et concrètement, le PLU va permettre de mettre des emplacements réservés, d'imaginer des traversées en cœur d'îlot, pour que le citoyen, l'usager, tout simplement, le touriste, comprenne le territoire sur lequel il est en mouvement.
Oui, c'est avant tout un projet, en fait, c'est un projet urbain, et c'est là où le PLU, finalement, il paraît tout à fait être un outil indispensable pour la protection du patrimoine, puisqu'il appréhende l'échelle du projet urbain avec toutes ces problématiques.
Il n'y a rien de plus frustrant que de dire « Oh, on a une pépite, on la protège, parce qu'on va la transmettre, mais... » C'est frustrant de la part de celui qui découvre cette pépite-là de ne pas comprendre cet objet-là sur son territoire. Nous, c'est ce qu'on aimerait à la Riche, sur les autres territoires aussi, c'est de faire comprendre, voilà, ces chemins de l'histoire, ce qu'on pourrait appeler les chemins de l'histoire. Non, les chemins de l'histoire dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, ça veut dire comment la Riche est passé d'une ville maraîchère à une ville urbaine, suburbaine, hein, d'aujourd'hui.
Les outils existent, finalement, c'est la stratégie. C'est vraiment, à mon avis, l'enjeu et la difficulté et le challenge, c'est de définir une stratégie, un vrai projet urbain patrimonial. Mais voilà, la difficulté, elle est là, elle est dans cet exercice-là. Les outils, à mon avis, sont suffisants.
Donc C'est la stratégie qui définit l'outil quelque part.
Ah bah complètement.
Absolument.
Et c'est pour ça que la difficulté elle est là, c'est d'abord définir une bonne stratégie. Et après, les outils sont faciles à mettre en place. On sait précisément ce qu'on veut, quels sont les objectifs, et qu'est-ce qu'on veut, quelle stratégie, où est-ce qu'on veut aller. Bah après, les outils, normalement, c'est facile.
À une échelle plus globale, la loi CAP qui voulait faire du PLU le principal outil de l'urbanisme patrimonial a été fortement décriée, notamment par un certain nombre d'élus, en particulier par le fait que le PLU est un outil qu'on modifie facilement, qu'on révise facilement, qui au gré des alternances politiques peut évoluer. Mmh. Alors est-ce que du coup le PLU serait un vrai bon outil, la vraie bonne idée pour inscrire le patrimoine qui s'inscrit plutôt dans un temps long, une durée. Mmh. Voilà, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Est-ce que finalement l'outil c'est la bonne idée pour le patrimoine?
Est-ce que l'outil c'est la bonne idée?
Est-ce que le PLU c'est la bonne idée pour la protection du patrimoine?
Disons que c'est peut-être un des rares outils qu'on a à disposition pour.
Bah, à mon avis, on ne peut pas dissocier le patrimoine du reste. Et c'est un projet global, en fait. Donc, en effet, la fragilité, elle est là. Elle est de l'alternance politique et des choix qui vont être différents, mais... à mon avis, on ne peut pas détacher sur un territoire le patrimoine qui serait finalement géré par une instance plus haute, et puis le reste du territoire, une autre partie du territoire qui n'est pas estimée patrimoniale, et qui serait finalement le PLU. Enfin, moi, ça, tout est imbriqué, quoi. Donc, un projet urbain, c'est un projet global qui intègre la dimension patrimoniale. Et en effet, eh bien, un PLU, c'est changeant selon aussi le projet politique. Et donc, la dimension patrimoniale aussi, en effet. Et bon, ça, c'est de la responsabilité de tout un chacun, à mon avis, et la responsabilité des élus. J'imagine pas, mais peut-être que je manque d'imagination, un autre outil qui permettrait, dans un temps long, de protéger. Bon, après, on a quand même un garant qui est présent sur le territoire, qui sont les services départementaux de l'architecture et du patrimoine, qui sont là quand même pour justement être vigilants et alertés et être un conseil précieux sur ces questions-là. Alors, bien sûr, on peut améliorer des choses, hein, ça c'est évident. À mon avis, c'est l'énergie qu'on y met, le temps et les moyens humains.
La possibilité qu'une municipalité différente révise le PLU parce qu'elle estime que la stratégie patrimoniale précédente, enfin jusqu'ici élaborée, n'est pas efficace pour sauver ce patrimoine-là, ben pourquoi pas, quoi.
Ça se discute, oui. Après,
Roméo, tu as des questions?
J'ai deux petites questions.
Je t'en prie.
Donc, là, pour rester dans le sujet, vous êtes en train de parler, justement. Je me demandais si, avec tout le discours autour de la loi CAP, etc., est-ce que dans ces derniers mois, dans ces derniers 2-3 ans peut-être, vous apercevez une différence dans la façon d'aborder le sujet du patrimoine à l'échelle du PLU, à l'échelle urbaine complète, parce qu'il y en a quand même eu un certain nombre de changements de position qui font référence à des changements d'idées générales. Après, j'en ai une autre, je peux vous la faire tout de suite. Et tout au début, justement, vous avez cité la référence à la production d'études faites par l'inventaire, avec une hiérarchisation, d'ailleurs avec une dénomination contexte comme indicateur. Alors, comment vous, directement, ou la municipalité, donc, vous avez géré la question de la hiérarchisation qui n'est pas dans le DNA de l'inventaire, donc en théorie, ça ne rentre pas. Donc bien évidemment, de quelque manière, ils ont été forcés, peut-être très bien, à faire quelque chose qui n'est pas naturel pour eux, mais c'est
pas forcé.
De l'autre côté. Non, pas forcé, mais comment c'était gérer la médiation
sur
une espèce de nouveauté, parce que ce n'est pas habituel.
C'est vrai, mais nous, on leur a bien expliqué dès le départ ce qu'on attendait de cette étude-là. Que cette étude puisse aider les élus à avoir une stratégie. Et pas si tu veux rajouter quelque chose.
Sur la première question, je pense qu'on sur la première question, on va peut-être tous les deux. Moi, je commence à prêter. Mais après, c'est du ressenti, c'est peut-être subjectif. J'ai l'impression que la dimension patrimoniale dans l'agglo, cette composante-là, s'est renforcée. Alors, pour quelles raisons? À mon avis, il y a plusieurs raisons à cela. Et notamment, c'est certainement une raison locale aussi. Et d'ailleurs, là où la composante patrimoniale se renforce, c'est dans les communes où le renouvellement urbain est fort. Donc à savoir Tours, et notamment Tours Nord, La Riche. Alors, en effet, de fait, je pense que ce renouvellement urbain qui s'accentue, c'est aussi lié au cadre national. Et les lois comme la loi Allure qui vont venir encourager la densification et le renouvellement urbain. Et par conséquent, et c'est aussi un changement finalement d'équipe politique qui a quand même, ça a été un débat, qui a critiqué la manière dont la densification s'est faite. On peut penser à Tournord, mais finalement à La Riche aussi on peut un peu s'interroger avec toutes les ruptures d'échelle qu'on a sur la manière dont la densification se fait aujourd'hui. Et à mon avis, le pendant de la densification, c'est peut-être du coup un intérêt encore plus fort sur le patrimoine. Et on élargit aussi la notion de patrimoine, forcément. Et en fait, finalement, c'est un intérêt encore plus fort à l'échelle du parcellaire, à l'échelle de la rue. En fait, finalement, il faudrait des études urbaines sur tous les espaces, quoi. C'est pour ça que la notion du parcellaire, à mon avis, est large et que c'est finalement contrôler ce renouvellement urbain, c'est un renouvellement urbain finalement acceptable et agréable, qui prenne en compte, d'ailleurs le patrimoine c'est aussi le végétal, donc c'est aussi la composante végétale dans la ville, voilà, les espaces vides, les pleins, ça c'est pour, peut-être que toi, est-ce que tu as chose à rajouter?
Non, est-ce que ça s'est renforcé? Cette notion de patrimoine, oui, s'est renforcée effectivement à cause du phénomène, comme tu le disais, de densification qui bouleverse un peu le paysage traditionnel, puisque l'extension, le développement ne se fait plus en extension, mais se fait davantage sur ce qui fait patrimoine, qu'il soit exceptionnel ou qu'il soit ordinaire. Et culturellement, effectivement, on n'aime pas voir changer, bouleverser notre quotidien. Donc ça fait prendre conscience aux habitants que « Ah, on était bien avant !» Mais quand on dit ça, « on était bien avant », c'était quoi ce qui était bien ? Eh bien, c'est ce qui fait aussi peut-être un peu patrimoine, quoi. Ça oblige à, analyser pourquoi c'était bien, pourquoi aujourd'hui c'est un peu moins bien, parce qu'on a peut-être, perdu notre intimité au cœur de notre jardin, dans notre cour. Alors qu'aujourd'hui, on avait su, composer et faire en sorte que même si on était dans un cœur de ville relativement dense, on avait chacun notre intimité dans notre cour, quoi. Et qu'aujourd'hui on y était un petit peu, peut-être un peu brutalement, il y a eu des gestes un peu brutaux qui ont fait qu'on a perdu cette intimité.
Mais dans le périurbain d'ailleurs, ça me fait penser, c'est... dans le périurbain par exemple, en ce moment, on a un cas très précis à Azé-sur-Cher, mais c'est une problématique que je trouve qui se répète dans plusieurs communes périurbaines. C'est finalement, c'est aussi lié à la densification, mais pas que, c'est aussi lié à l'architecture contemporaine et au fait qu'aujourd'hui les PLU ne peuvent plus interdire les toitures terrasses végétalisées. Voilà, c'est un exemple très concret. Les toitures terrasses végétalisées, c'est tout un sujet. Parce que dans des environnements où, que ce soit d'ailleurs du bourg ancien ou des quartiers pavillonnaires où la règle est la toiture en pente, certains élus aimeraient pouvoir interdire la toiture terrasse, même végétalisée, dans certains cas particuliers. Et aujourd'hui, la loi ne rend pas possible, pour des questions d'exigence environnementale, de l'interdire. Et c'est une préoccupation des élus. C'est-à-dire qu'en effet, ça peut être très bien fait, une maison, une architecture contemporaine, toiture terrasse dans un quartier pavillonnaire, comme ça peut être mal fait. Et l'élu parfois préfère pas prendre le risque que ce soit mal fait. Donc, mais aujourd'hui, on ne peut pas. Et on sent que c'est un vrai sujet, que ça les préoccupe. Comment gérer les toitures terrasses? Donc ça, c'est une des problématiques en mon période. Et puis pour la deuxième question sur le travail qui a été fait, un peu particulier, et je pense que ce qui donne corps aussi au travail qu'on mène sur la Riche. Eh bien, je pense que les services de l'inventaire, ils ont joué le jeu. Ils sont même venus présenter leur travail à l'agence d'urbanisme pour qu'on essaye aussi de voir comment cette méthodologie, est-ce qu'elle est applicable ou rétro, comment dire, copie, on peut faire du copier-coller sur d'autres territoires ou si on peut la faire évoluer. En tout cas, je pense que eux, ils essayent d'en tirer parti de ce travail-là. Après, la carte de hiérarchie qui en résulte, eh ben, on n'a pas encore exploité. Ça va être un travail qui doit être fait et qui, voilà, où les élus vont devoir se positionner sur qu'est-ce qui protège et qu'est-ce qui ne protège pas. Par exemple, on a des exemples où on a du patrimoine très élevé, là où doit passer éventuellement une ligne TCSP ou éventuellement un tramway. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on protège celle qui est classée en très élevé ou est-ce qu'à un moment donné, ben, c'est le recul pour laisser passer voilà. Donc ça, il y a des arbitrages qui n'ont pas été encore faits sur certains espaces. Mais en tout cas, c'est un bon support, quoi, de travail.
Merci beaucoup. Thank you.